Alors j'ai intitulé voilà l'étude de ce soir « Celui qui devait venir hein, », Jésus-Christ, le Messie. On rappelle que le mot « le Messie », ça désigne celui qui est oint, qui reçoit l'onction. Hein, et c'est synonyme exactement du Christ. Hein. Le Messie, c'est Machiar, ça vient de l'hébreu. Et Christ veut dire celui qui est oint aussi, Christos, mais en grec. Donc quand on dit Jésus-Christ ou Jésus le Messie, c'est exactement synonyme. Effectivement, Jésus est le Christ, le Messie, celui qui est oint et qui était annoncé dès l'Ancien Testament. Et je vous propose une petite série de textes ce soir que nous allons voir ensemble et commenter ces traces et ces annonces de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Alors on a toute une série de préfigurations, on ne pourra pas en faire le tour, peut-être même que toute l'Écriture nous parle finalement quelque part en filigrane, il y a toujours derrière, en tout cas dans l'Ancien Testament, la personne de Jésus. On a des événements qui nous parlent de Jésus à l'avance. Quand Moïse brandit ce serpent d'airain, hein, l'apôtre Jean nous dit c'était une figure déjà de Jésus-Christ, il faut regarder à lui pour être guéri, pour être pardonné, pour être sauvé. Vous ne pouvez pas forcément le deviner à l'avance, mais voilà, il y a même des événements historiques comme ça qui annoncent qui est Jésus et quelle est son œuvre. Tout le système, par exemple, des sacrifices de l'Ancien Testament était là aussi. Pour parler, pour annoncer, pour préfigurer le sacrifice qui apporterait le pardon des péchés. Des personnes aussi, on parle des fois de, vous avez déjà entendu cette expression, hein, de type de Jésus, c'est-à-dire pour dire des préfigurations, hein, de Jésus, le roi David par exemple, à certains égards, annonce aussi le roi par excellence. Voilà. Et on ne pourrait pas faire le tour de tout ce qui parle de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, mais on va voir quelques textes. D'ailleurs, le Nouveau Testament dit que un des rôles de l'Ancien Testament était justement de préparer. Hein, il y a toute une pédagogie qui nous permet de comprendre l'œuvre de Jésus et que c'était l'ombre. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, c'est dit dans au moins deux textes. Je pense en fait qu'il n'y en a que deux, dans Colossiens 2 et puis dans Hébreux 8. Il y a aussi, en plus des préfigurations de Jésus, il y a aussi des prédictions. Et c'est plutôt ces prédictions qu'on va voir ce soir. Il y a l'annonce même des prédictions d'ailleurs assez précises, hein. Alors je ne sais pas, il y en a qui disent qu'il y en a 30, il y en a qui disent qu'il y en a 300, alors je ne sais pas comment... Comment compter, c'est sans doute entre les deux. Des choses assez précises, même que Jésus mourrait hein, en Ésaïe 53, et qu'il naîtrait d'une vierge, Ésaïe 7. Hein. Alors des fois, le mot vierge, dans certaines traductions, est traduit « la jeune fille deviendra enceinte », mais en fait, c'est plus exact de traduire « la vierge deviendra enceinte ». Pourquoi ? Parce que le prophète Ésaïe dit qu'il y aura là un signe. Alors qu'une jeune fille qui est enceinte, ce n'est pas forcément un signe particulier. Hein. C'était parce que c'était une jeune fille vierge. Et c'était annoncé donc à Ésaïe 7, hein, par le prophète Ésaïe, que Jésus naîtrait à Bethléem, Michée chapitre 5, que son ministère commencerait en Galilée, Ésaïe 9, et des éléments de son caractère, avec les chants des serviteurs, avec aussi... tous ces titres qui lui sont donnés à Jésus chez le prophète Ésaïe, qui serait trahi aussi pour 30 pièces d'argent, Zacharie 11, que voilà, il serait mort comme un berger frappé, Zacharie 13, et puis qu'il ressusciterait. Ésaïe 53, la résurrection est présente dans Ésaïe 53 et dans le psaume 16 aussi. Mais je vous propose de voir, du coup, déjà dans le Pentateuque. Le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Est-ce qu'on a dans le Pentateuque Chez les prophètes qui viennent un peu plus tard, ouais, j'ai cité quelques exemples, mais est-ce que dans le Pentateuque, on n'a pas déjà des versets qui nous annoncent Jésus-Christ? Est-ce que vous savez dans quel verset on a la première annonce de Jésus-Christ dans la Bible? C'est dans la Genèse. C'est dans... Oui, tu dis? Exactement. C'est Genèse dès le chapitre 3. Je vous lis ce verset, Genèse 3, verset 15. On appelle des fois ce verset le protévangile, l'évangile déjà annoncé. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. C'est une parole qui s'adresse de Dieu au serpent. Entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors, une parole pas 100% claire. Hein. Comment comprendre ce texte? Un texte qui nous parle d'une lignée humaine. Alors, est-ce qu'il s'agit... On pourrait penser qu'il s'agit de toute l'humanité qui finalement sera vainqueur sur le mal et finira par triompher du mal. Mais ça peut aussi, la postérité de la femme, ça peut aussi désigner quelqu'un qui représenterait toute cette humanité, donc, et qui obtiendrait une victoire. Et c'est d'ailleurs même le sens du texte le plus probable, parce qu'il est question d'un acte, d'une victoire, à un moment donné, un acte unique. Hein, l'adversaire aura la tête écrasée, et cette victoire... aura aussi un prix, hein, le serpent mordra le talon, il y aura une blessure aussi infligée, mais sans commune mesure, hein, une morsure au talon, et de l'autre côté une tête écrasée, donc une victoire, ben, c'est le cas de le dire, écrasante, d'un représentant de cette humanité qui sera là un jour dans la postérité de la femme. Mais effectivement, pendant des siècles, cette parole reste assez obscure. C'est en voyant Jésus-Christ qu'on voit que ça colle bien. Tout d'abord, Jésus est né d'une femme. Paul le dit, hein, Galates 4, verset 4, il vient pour détruire les œuvres du diable. C'est l'apôtre Jean qui nous le dit. On voit que ça correspond bien. Et c'est par sa mort aussi qu'il va réduire le diable, celui qui avait le pouvoir de la mort, à l'impuissance. Donc là, on voit que la blessure au talon, c'est la mort de Jésus, de laquelle il sera victorieux, il va ressusciter. Il subit le déchaînement du mal, mais c'est en subissant ce déchaînement du mal qu'il finalement obtient la victoire sur le diable et la mort. Et ça devient la base du pardon, etc., à la croix. Il y a un verset dans Romains, alors on l'avait cité il n'y a pas longtemps, avec, sur le thème de la paix, justement, le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Peut-être c'est comme ça qu'il faut lire ce verset, en se disant que cette tête de l'adversaire qui a été écrasée, on attend encore une plénitude d'accomplissement de cela à la fin des temps, lorsque le diable sera lui aussi jugé. Ça fait référence aussi à écraser Satan. Alors après, oui, c'est sous vos pieds, c'est-à-dire que oui, bon, là on a quelque chose d'un petit peu étrange, mais en tout cas c'est le Dieu de la paix qui écrasera bientôt Satan encore de façon plus définitive. On sait qu'il est vaincu, mais il a encore du pouvoir. Mais un jour, il sera mis hors d'état de nuire. Alors, à la lumière de Jésus-Christ, ce texte prend assez naturellement son sens. C'est l'accomplissement qui nous permet de comprendre la prédiction. Et c'est un principe assez général, hein. C'est des fois à la lumière du Nouveau Testament qu'on peut même comprendre l'Ancien. C'est à la lumière aussi de l'Ancien qu'on peut, parce que c'est, en tout cas dans la continuité de l'Ancien, qu'on lit le Nouveau Testament, hein, disons, on a cet effet de la Bible, de deux parties qui la constituent, qui se comprennent l'une avec l'autre. Alors on a toujours dans la Genèse une deuxième figure. Est-ce que, alors celle-là est plus, on la cite moins souvent. Est-ce que vous voyez de quoi il s'agit dans la Genèse? Alors oui, on pourrait voir dans un certain nombre effectivement d'actes qui nous sont rapportés, effectivement, des images, hein, aussi du sacrifice de Jésus et tout ça. Mais là, au niveau des annonces de quelqu'un qui doit venir, d'une personne, hein, est-ce que vous voyez? C'est dans le testament de Jacob, à la fin de l'histoire des patriarches, il y a une prophétie un peu particulière qui annonce un descendant qui établira son règne sur toutes les nations. C'est Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Alors, je ne sais pas si dans votre traduction c'est écrit le Shiloh. Souvent, on l'a laissé comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un titre? La meilleure explication, c'est de considérer que c'est une forme contractée de deux mots en hébreu. Chez, l'eau. Donc celui à qui, hein, chez, c'est le pronom relatif, et l'eau à lui, pour lui, voilà. Donc celui à qui appartient, mais on ne sait pas quoi. Celui à qui appartient quelque chose, celui qui a quelque chose. Littéralement, celui qui, pour lui. Alors, c'est encore une fois assez énigmatique, hein. On a quand même des informations. C'est un descendant de Juda, à qui la royauté appartient d'une manière particulière, différente de ceux qui l'ont précédé. Et un indice, peut-être, chez le prophète Ézéchiel, nous permet peut-être de comprendre un petit peu cette expression aussi, le Shiloh. Ézéchiel s'adresse au dernier roi de Juda et il dit de Jérusalem, en Ézéchiel 21, verset 27, « J'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. » Il n'y en aura plus de pareil jusqu'à ce que vienne celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Et cette expression-là, celui à qui appartient le jugement, c'est tout simplement la forme plus développée de cette petite expression, le Shiloh, qu'on a déjà dans Genèse 49. Voilà. Et là, ils ajoutent le jugement, hein, celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. C'est la forme la plus développée. Et donc, voilà, ce verset assez énigmatique, voilà, renvoie à celui à qui appartient le jugement, ben c'est aussi le Messie. On a là aussi un texte qui va prendre son sens, hein, quand on lit des versets du Nouveau Testament, hein, que le Père a remis le fait de juger le monde entre les mains de son Fils, etc., que Dieu va juger le monde par un homme. Voilà. Ça vient éclairer cela. Des fois, on ajoute aussi, parce qu'il y a, l'image du sceptre, hein, qui ne s'éloignera point de Juda, cette parole de Balaam, en Nombre 24, versets 17 à 19, qui dit « Je vois un astre brillant sortir de Jacob ». Et certains voient là-dedans aussi, dans cette parole, une allusion aussi messianique, puisqu'il est aussi question de ce sceptre, donc de cette autorité judiciaire, cette autorité royale. Voilà. Pour Nombre 24, alors oui, on peut y voir une allusion messianique. Certains préfèrent y voir plutôt une annonce du roi David. Mais David étant lui-même aussi quelque part une préfiguration de Jésus, en tout cas sous certains aspects. Voilà, on a des fois des petits tiroirs comme ça qui s'emboîtent. Et alors pourquoi plutôt le roi David pour Nombre 24? Parce qu'il est question de combattre les Moabites et puis aussi d'autres. Et puis on voit en fait que ça nous est rapporté aussi dans un chapitre, dans 2 Samuel, chapitre 8, effectivement, la victoire de David sur les Moabites, etc. Et il y a encore un autre peuple qui est mentionné. Mais voilà, des fois on associe ce Shiloh à cause du sceptre à aussi cette parole de Balaam qui devait maudire, mais qui ne peut pas maudire et qui finalement prophétise même des choses, la victoire de Dieu et de son peuple et d'une figure qui se lève. Et là, l'astre brillant ne désigne pas nécessairement non plus la divinité. C'est un roi, les astres représentaient des rois. Mais alors, bien sûr, ça nous fait penser au mage qui avait vu l'étoile. Et puis au titre donné à Jésus dans l'Apocalypse, l'étoile du matin. Donc oui, on peut y voir quelque chose de l'ordre de messianique aussi dans ces paroles. Et il y a une autre figure encore dans le Pentateuque, cette fois-ci dans le livre du Deutéronome. Oui.
C'est le livre du mot qui se fait sur le texte.
Ok.
C'est le Deutéronome 18.
Oui. Oui, Deutéronome 18, effectivement. Celle d'un prophète comme Moïse qui viendra et qu'il faudra donc écouter. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Deutéronome 18, verset 15. Alors, certains y ont vu aussi un sens d'abord collectif, c'est-à-dire toute la lignée des prophètes que Dieu va envoyer au peuple. Mais d'autres disent non, il s'agit bien d'un singulier, un prophète comme Moïse. Moïse n'était pas n'importe quel prophète. Bien sûr, il était prophète. Mais il a été aussi médiateur de l'Alliance. C'est lui qui reçoit aussi la loi. Et donc parler d'un prophète comme Moïse, c'était parler d'un prophète, mais avec une dimension aussi d'une alliance. Une figure aussi complète que celle de Moïse. Et on voit ça nulle part ailleurs dans les autres prophètes. Ils ne font que rappeler la loi qui avait été donnée à Moïse. Élie, on aurait pu penser à Élie éventuellement, qui ressemble un peu à Moïse sous certains aspects, mais Élie n'a pas donné de loi. Ésaïe, Jérémie ont rappelé la loi de Moïse, ils ont annoncé le salut de Dieu, mais n'ont pas eux-mêmes donné une nouvelle base de vie au peuple, comme l'a fait Moïse. Alors ce prophète, comme Moïse, est quelqu'un de particulier. Et c'est Jésus-Christ. Évidemment, on pourrait dire même que dans l'évangile de Matthieu, c'est ce que on voit avec le sermon sur la montagne, quelque part cette nouvelle loi, le sermon sur la montagne, vous avez entendu dire, mais moi je vous dis, cette nouvelle alliance aussi que Jésus vient révéler, apporter. D'ailleurs, quand la Samaritaine demande à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ?» elle fait très probablement allusion à ce texte-là, parce que les Samaritains n'avaient que le Pentateuque, comme livre reconnu. Et donc, celui qui doit venir, qui est prophète, elle dit « Je vois que tu es prophète », etc. Ça fait probablement allusion à cette attente du Messie, à partir de Deutéronome 18. Donc voilà, on a déjà ces trois figures. Oui.
Les musulmans faisaient référence au passage.
Pour dire que c'est Mahomet. Oui, ok. Mmh. Ouais. Alors ça paraît assez clair quand même que c'est Jésus. D'ailleurs, Jésus dit à la Samaritaine. qu'il est, celui qui devait venir, hein, qui, je le suis. Il le dit à peu de personnes, hein, Jésus, hein, mais là il a pu le dire à la Samaritaine, parce que les Samaritains n'avaient pas tout à fait la même attente que les Juifs concernant le Messie. Il y avait moins de risques qu'elle se déprenne et qu'elle voit en Jésus le libérateur politique d'Israël. En tout cas, une possibilité, pourquoi Jésus le dit là, alors que à ses disciples, il recommande des fois assez fermement de ne pas le dire, hein, qu'il est le Messie. Donc en tout cas, voilà, on a déjà ces trois figures, la postérité de la femme, écrasera la tête du serpent, le Shiloh, auquel on peut, avec l'astre brillant, voilà, qui se lève de Jacob, et le nouveau Moïse. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on a dans le Pentateuque, comme annonce, hein, de personnes qui doivent venir. Après, dans le reste de l'Ancien Testament, on va avoir encore trois autres figures. Qu'est-ce qu'on a qui annonce encore de façon assez claire des annonces du Messie dans le reste de l'Ancien Testament? Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Ouais, voilà, ouais. Donc le serviteur de l'Éternel dans Ésaïe, ouais. C'est une des figures principales. Qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, exact. Le fils de David. Et puis, la dernière, bon, je dis que c'est une figure principale, peut-être elle n'est pas principale, mais c'est quand même le fils de l'homme, chez le prophète Daniel. Mais on va commencer par le fils de David, c'est la première qui arrive, hein. Vous connaissez cette promesse faite à David en 2 Samuel 7, hein, l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. En fait, dans cette parole du prophète Nathan, il y a un double accent. Un accent d'abord individuel, on parle d'un fils de David, et je pense que ce fils c'est d'abord Salomon, effectivement, qui bâtira une maison, etc., pour Dieu. Et il y a un accent qui est plus collectif, on pourrait dire, c'est ta maison, ton règne. Et en fait, Salomon ne sert que de figure à ça, à ce qui devra encore venir après. Puisqu'on parle d'un royaume qui sera affermi pour toujours. Alors, est-ce que c'est simplement qu'il y aura une succession de rois qui prendront le relais les uns des autres, ou est-ce que c'est autre chose? Ça voudrait dire un règne définitif. Alors, on a un indice chez un autre prophète qui nous permet, en fait, de trancher un petit peu sur l'interprétation. C'est le prophète Amos qui nous dit qu'à un moment donné, la maison de David sera complètement en ruine et qu'il faudra que le Seigneur la relève. Hein. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Donc visiblement, ce texte ne parle pas d'une lignée ininterrompue de rois successifs. Alors c'est vrai que dans le royaume de Juda, on est resté dans une dynastie royale, jusqu'à l'exil. Ce qui n'était pas le cas dans le royaume du Nord, hein, où il y a des tas de coups d'État, d'autres familles qui viennent, etc. Et certains rois qui sont au pouvoir pendant 3 mois. Et donc je crois qu'il y a 7 ou 8 dynasties dans le royaume du Nord, alors qu'il n'y en a qu'une dans le royaume de Juda. Mais quand même, à un moment donné, eh bien, la maison de David sera comme une cabane croulante, on pourrait traduire. Hein. Donc c'est pas que une succession de rois qui serait éternelle, etc. C'est autre chose. Michée va reprendre aussi ce thème du fils de David en disant que le Messie naîtra à Bethléem. Bethléem qui était la ville de David et non à Jérusalem. Et le Messie, chez Michée, a des qualités aussi qu'on n'attribuerait à aucun roi humain. Hein. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. C'est quelques versets de Michée 5, versets 1 à 4. Alors, c'est encore une fois celui qui dominera sur Israël, avec toutes sortes d'attributs, qui évoque Dieu lui-même, le Seigneur lui-même. Et Michée, probablement, il reprend aussi Ésaïe, hein, celle qui doit enfanter. C'est une prophétie qui vient d'Ésaïe. Michée et Ésaïe étant d'ailleurs des contemporains. Il y a même un oracle qui parle de la paix universelle. On ne sait pas trop si c'est Michée qui a repris Ésaïe ou Ésaïe qui a repris Michée. On a des versets qui sont exactement pareils dans Michée et dans Ésaïe. Donc là, c'est probablement Michée qui reprend Ésaïe. Ésaïe qui dit que la Vierge deviendra enceinte, on appellera son enfant Emmanuel, Dieu avec nous. Encore une fois, un titre divin, donné à un enfant, hein, Dieu avec nous. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, car on l'appellera admirable conseiller, Dieu fort, Père éternel, Prince de la paix. Toutes ces... prophétie là, on est dans quelque part un développement de ce fils de David qui règnera pour toujours. Là encore une fois, ce fils, cet enfant même est appelé Dieu, Dieu fort. Et très curieusement aussi Père éternel. Pas comment d'ailleurs l'interpréter de façon très précise, parce que Jésus est plutôt le Fils éternel, mais il reçoit aussi le titre de Père, donc quelque part il y a plus, voilà. En tout cas que nous en tant que Fils de Dieu. Il y a aussi dans le prophète Zacharie, le grand prêtre Josué, sert aussi de figure au Messie, et ce grand prêtre est en même temps roi. Hein, Zacharie 6, verset 12-13, « Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre, c'est probablement entre l'un et l'autre, c'est-à-dire la fonction royale, la fonction sacerdotale. Et là, on a un autre titre, le germe. Alors, est-ce que c'est le germe qui vient justement sur la souche d'Isaïe, voilà. Zacharie reprend aussi peut-être d'autres. Sans doute, hein, d'autres prophètes avant lui. Jérémie avait dit aussi, voici les jours viennent où je susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi, il prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Donc on voit voilà, un certain nombre de prophètes qui reprennent cette annonce faite à David. Il y aurait toujours un descendant sur son trône. Et on le voit, hein, donc Michée, Jérémie, Zacharie, tous... parle d'un règne éternel. Melchisédek ? Alors Melchisédek, alors oui, des fois certains disent cette... Ouais, alors effectivement, il était roi, ben, il était roi de Salem, de Jérusalem en fait. Hein, oui, ça veut dire roi de paix. Certains y ont vu effectivement comme une figure aussi hein, de Jésus-Christ, puisque Abraham, finalement, déjà reconnaît qu'ils adorent le même Dieu, et puis finalement, c'est repris par l'auteur de l'Épître aux Hébreux en disant que même le sacrifice de Jésus est pas selon Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek, etc. Donc c'est, ouais, certains y ont vu même une préfiguration aussi un petit peu de la prêtrise de Jésus-Christ. En tout cas, c'est comme ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'interprète. Il est prêtre et roi aussi, parce qu'en Israël, les fonctions devaient être bien distinctes. Donc ça ressemble aussi à ce que dit Zacharie là, hein, à la fois un roi qui est aussi prêtre. Pour Melchisédek, je pense pas, non, non. Alors, c'est écrit qui. Ouais, alors, en tout cas dans la Genèse, je crois que quelque chose qui a fait penser aussi à Jésus, c'est qu'on ne sait pas trop d'où vient ce personnage. J'ai même une fois entendu quelqu'un qui pensait que ce serait quelque part déjà presque comme une apparition de Jésus, mais ça, j'y crois pas trop. C'est simplement, voilà, on peut faire un rapprochement, effectivement, avec Jésus, dans le psaume 110.
Tu seras prêtre toujours selon Dieu.
Oui,
c'est le Messie qui sera prêtre. Le Messie.
Ouais. Donc là, c'est prêtre pour toujours, ouais. C'est pas forcément roi pour toujours, comme pour le fils de David, mais effectivement, oui, on peut y voir un type, comme on dit, hein, de Jésus-Christ, dans ce personnage. Puis on ne sait pas trop d'où il vient. D'ailleurs, il y a même une expression dans la Genèse qui dit que... l'expression ne dit pas qu'il est éternel, mais certains l'ont lu un peu comme ça, parce qu'on ne sait pas trop d'où il vient, ce personnage. C'est assez étrange quand même. Hein. La deuxième grande figure, après le fils de David, c'est celle du serviteur souffrant. Alors là, c'est vraiment, ou même le serviteur tout court, il est souffrant surtout dans Ésaïe 53. C'est Ésaïe qui introduit un personnage nouveau. Alors pour l'instant, on ne sait pas encore hein, si c'est le même que le fils de David ou pas. Hein. En fait, c'est quand Jésus arrive qu'on voit que tout colle bien hein, et que le fils de David, c'est aussi le serviteur, c'est aussi le prophète annoncé, c'est aussi celui qui écrasera la tête du serpent, etc. C'est quand Jésus arrive et exerce son ministère et meurt à la croix qu'on voit que toutes ces annonces pointaient vers lui. Mais au départ, si on n'avait que l'Ancien Testament, on pourrait penser qu'il y a... plusieurs personnes, à la limite, attendues, ou une espérance qui, n'est pas forcément, on n'attend pas forcément une personne unique, mais peut-être ça pourrait désigner tout un peuple, etc. Donc, Ésaïe 40, voici, 42, voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. Et là, c'est qu'un extrait, c'est que le début, et on a plusieurs poèmes dans le prophète Ésaïe qui nous parle de ce serviteur et qui décrit un petit peu son identité. Alors, certains ont contesté que le serviteur serait une personne, notamment dans le milieu juif. Hein. Par exemple, Ésaïe 49, verset 3, « Tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai. » Donc certains ont dit, « Ah ben voilà, on a là la clé d'interprétation. Ce serviteur, c'est Israël. C'est donc tout un peuple en qui Dieu se glorifiera. Mais si on lit la suite, en fait, ce serviteur qui est appelé Israël, effectivement, mais a une mission en faveur d'Israël. Donc ça ne peut pas être le peuple qui agit pour lui-même. Ésaïe 49, verset 5, « Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob, c'est Israël, hein, et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. » Donc on voit que ce serviteur, il a une mission à accomplir pour ramener à lui le peuple d'Israël. Donc ça ne peut pas être le peuple. Et ça, à mon avis, c'est un argument décisif pour en tout cas exclure l'interprétation que le serviteur serait le peuple d'Israël. Sinon, la suite n'est pas compréhensible. C'est donc quelqu'un de bien précis qu'on appelle aussi Israël parce qu'il remplit la mission qu'aurait dû remplir le peuple d'Israël. On voit qu'il y a un lien entre le serviteur aussi et le nouveau Moïse. Les îles espéreront en sa loi, littéralement en sa Torah. Il est établi aussi pour être l'alliance du peuple, la lumière des nations, Ésaïe 42, verset 6. Et donc là, on dépasse encore la figure d'un prophète. On a comme la figure du prophète comme Moïse, hein, qui annonce une nouvelle alliance qui fusionne avec celle du serviteur. C'est le serviteur aussi qui libère, qui fait sortir de prison les habitants des ténèbres. Il dit aux prisonniers, sortez. Il guide ses prisonniers vers des sources d'eau. Mais la caractéristique principale du serviteur, c'est qu'il va aussi souffrir. Il sera rejeté des hommes, condamné injustement. Hein. Qui a cru? Comment reconnaîtront en cela la main du Seigneur? Le châtiment que le serviteur endure, c'est celui qui nous donne la paix. Il est frappé pour nous. Ésaïe dit même que le serviteur offre sa vie comme un sacrifice pour le péché. Et après cela, le serviteur verra la lumière et rassasira ses regards. Je paraphrase le site. Des petits bouts de phrases d'Ésaïe 53. Il apportera la justice à une multitude. Il sera élevé parce qu'il a accepté aussi de s'abaisser. Ce texte magnifique hein, qu'on appelle l'évangile, des fois, de l'Ancien Testament. Donc, on a le fils de David, le serviteur. On voit que le serviteur, il est quand même bien proche du nouveau Moïse aussi. Hein. Mais enfin, voilà. Et dernière figure qui me semble importante aussi, Daniel 7, versets 13 et 14, le Fils de l'homme. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un Fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des Jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Là, on retrouve aussi l'idée d'un règne qui ne sera jamais détruit, éternel, universel, sur toutes les nations. Et donc, on a aussi dans cette figure du Fils de l'homme, quelque part, déjà des éléments aussi du Fils de David. Le Fils de l'homme est le Fils de David. Il vient sur les nuées. Donc c'est très fort aussi, parce que les nuées sont le signe de l'apparition de Dieu, hein, de se manifester, par exemple, dans l'inauguration du temple de Salomon par une nuée, une fumée, et c'était aussi la nuée dans le désert, etc. C'est le signe de la divinité. D'ailleurs, Jésus va reprendre hein, même ce verset-là de l'Ancien Testament devant le grand prêtre, hein, c'est-à-dire, et vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées, etc. Et puis, oh, à ce moment-là, il déchire ses vêtements, on n'a plus besoin de procès, c'est un blasphème, etc. Le grand prêtre avait bien compris que Jésus était en train de lui dire qu'il était d'origine, de rang divin, d'origine divine. Certains ont noté aussi le singulier « quelqu'un comme un fils d'homme ». Il s'agit bien d'une personne précise. Et qui vient sur les nuées. Origine donc céleste, pas terrestre. Donc voilà, on a la vision d'une intervention divine pour établir ce royaume universel et éternel. Alors maintenant, on peut faire le bilan. Si on ramasse, si on met tout ça ensemble, peut-être certaines pièces du puzzle sont difficiles à attacher les unes aux autres, mais on a quand même voilà, quelques éléments qui s'emboîtent déjà un petit peu. On a le prophète Zacharie aussi qui, à un moment donné, semble avoir compris que le serviteur chez Esaïe et le fils de David désignent la même personne, puisqu'il va dire, il va utiliser à un moment donné, en Zacharie 3, verset 8, cette expression « mon serviteur, le germe ». Et le germe, c'était une figure royale aussi dans les textes qu'on a vus rapidement. Et le fait de l'associer au serviteur, peut-être c'était vraiment volontaire de sa part, et il a vu que c'était la même personne entre les deux. Donc encore un petit lien qu'on peut faire là. Mais par contre, pas évident de faire le lien avec la postérité de la femme. Faut-il attendre un homme, une intervention divine ? Voilà les questions qu'on pourrait se poser si on n'avait que l'Ancien Testament. Mais c'est comme donc si on avait un puzzle, il y a un trou. Et en fait, quand Jésus vient, eh bien, il permet de relier un petit peu les différents éléments déjà posés dans l'Ancienne Alliance. Ça colle parfaitement aussi, donc le fait que Dieu devient un homme, ça colle parfaitement avec le caractère divin aussi de cette personne annoncée dans l'Ancien Testament. Avec d'autres textes encore, comme par exemple dans Ézéchiel, où Dieu dit, vous avez eu des mauvais bergers, mais moi je vais venir moi-même m'occuper de mon troupeau. Alors c'est très très fort aussi. Lorsque Jésus vient, Dieu fait homme, alors ben, tout colle, et on peut voir qu'il y a une fusion. Hein, le fils de David est le serviteur, c'est le fils de l'homme, de Daniel, c'est le nouveau prophète, c'est le Shiloh aussi, et celui qui écrasera la tête du serpent. Donc, en fait, on pourrait vraiment rentrer dans plus de niveaux de détails, mais on a toutes ces figures qui, finalement, s'emboîtent parfaitement lorsqu'on voit Jésus-Christ arriver, son ministère et son œuvre à la croix. Voilà.